RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Nous savons aujourd'hui que le climat de la planète se réchauffe parce que notre mode de vie, lié au pétrole, génère beaucoup de gaz à effet de serre. Pour enrayer ce processus, eh bien des villes, des villages, des territoires qui se déclarent en transition ont décidé de réduire leur consommation de pétrole pour privilégier un quotidien, on va le dire comme ça, plus durable. C'est le cas du village d'Ungersheim en Alsace, où Agnès Rougier est partie en reportage. Ungersheim, un village pour l'avenir. Grand reportage d'Agnès que l'on retrouve pour en parler là dans un quart d'heure. Voici son reportage.
La démarche de la transition, l'histoire du dérèglement climatique, il y a eu une énorme sensibilisation. Et puis aujourd'hui, quand on parle du réchauffement, tout le monde le comprend. Alors qu'il y a seulement 8 ans en arrière, quand nous l'avions lancé, voilà, on nous prenait un peu pour des doux rêveurs ou des farfelus, quoi. Mais aujourd'hui, ça fait son chemin. Voilà, c'est en marchant que l'on trouve le chemin.
En France, peu de communes se sont déclarées officiellement en transition écologique. Mais c'est le cas d'un village alsacien de 2100 habitants, Ungersheim, où Jean-Claude Mensch, maire depuis 26 ans, a initié le processus. La transition écologique repose sur le constat que les énergies fossiles deviennent rares, polluent et contribuent au réchauffement du climat, qu'il faut donc en réduire la consommation. Le concept a été développé en 2005 en Irlande par des étudiants de l'université de Kinsale et il n'y a pas de mode d'emploi universel mais des centaines de solutions différentes de par le monde.
Vite, Richelieu, allez. Hop. Allez, Richelieu, allez.
À Ungersheim, la transition écologique vise à l'autonomie dans trois domaines. L'autonomie intellectuelle, le pilier central, qui se manifeste par la démocratie participative, l'alimentation et l'énergie. Jean-Claude Mensch, maire d'Ungersheim.
On agit dans le cadre de l'énergie, hein, comme tout le monde, mais pas seulement dans la production d'énergie renouvelable, dans l'énergie primaire de base, mais aussi dans les économies d'énergie, dans la sensibilisation et, par exemple, les produits phytosanitaires pour les espaces verts, pour les espaces fleuris, pour les terrains de sport. Il n'y a plus d'intrants chimiques, il n'y a plus de produits phytosanitaires ni d'engrais chimiques depuis 2006. Qui sont d'ailleurs à l'origine très énergivores, en pétrole. Aussi privilégier l'éco-habitat, donc les bonnes isolations des maisons, et nous avons lancé un programme d'éco-hameau avec 9 habitations qui vont voir le jour prochainement. Donc des maisons passives qui utilisent très peu d'énergie, ou pas du tout, quasiment. Donc il y a aussi le cheval cantonnier qui est très peu énergivore, qui coûte pas grand-chose par rapport à son travail, et qui est aussi un excellent vecteur de sensibilisation. Voilà, puisqu'il transporte les enfants à l'école, donc ça marche très bien de ce point de vue-là.
Bonjour. Ah. David, donc...
Maître d'attelage.
Maître d'attelage.
C'est ça. De Richelieu.
Richelieu. Bon, c'est une belle bête, c'est un beau cheval, hein.
Ouais.
Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble tous les deux?
Ça fait depuis 2008. On est arrivé dans l'effectif communal en même temps, en fait.
Et alors, vous l'avez choisi aussi, hein?
Non, on n'a pas non. Eu le choix. Mais ils nous ont donné le bon. Ouais, il est très calme, très docile. Il apprécie l'accompagner avec les enfants, ce qui est important.
Donc là, vous avez récupéré les enfants à la sortie de l'école.
Excusez-moi, oui, c'est ça. Et on va les ramener chez eux, à la maison.
Et c'est comme ça tous les jours?
C'est comme ça tous les jours. On fait un circuit différent chaque jour pour satisfaire un peu tout le monde, quoi. Allez, Richelieu, on y va. Allez, mon grand, allez. Allez.
Il n'y a pas peur des voitures?
Non, pas de soucis. Allez, grand, on y va. Allez, hop, allez. Allez, Richelieu, allez. Allez, tu trottes. Tu trottes, Richelieu. Allez, trottez. Allez, on y va, Richelieu. Allez, hop. Allez, tu trottes. Tu trottes, Richelieu, allez. Allez. Super, grand, allez. Allez, on y va, grand, allez. Hop.
Alors, c'est mieux qu'un autobus, hein?
Oui, parce que ça pollue. Ça évite de prendre les voitures tout le temps.
Allez, grand, allez. Personne descend rue de Paris. Hein.
Non. Moi, je vais juste devant la
Ouais, mais c'était dispo chez toi, alors. Pas. C'est bien. Salut. Là. Ah, oh. C'est bon, vous pouvez y aller. Merci, de même.
Ungersheim accueille tous les ans de nouveaux habitants intéressés par le projet de transition, dont notamment un hameau écologique. Le projet a été lancé il y a 5 ans et les fondations seront construites le mois prochain. Les futurs habitants ont conçu eux-mêmes leur habitat avec un architecte et tout le processus s'est déroulé de manière participative lors de réunions mensuelles.
Bonsoir.
Donc,
Daniel, locataire de...
Le colocataire.
Vous êtes en retard, vous aviez commencé votre réunion déjà.
Voilà.
Patrice.
Mathieu.
Ah ben voilà. Oh, en fond de ta ouais, je veux bien voir.
Nous, on est dans cette maison qui est là, dans le coin. Et donc, il y a une partie, il y a deux appartements ici qui ont un espace commun sur deux niveaux. Là, il y a Anne-Catherine et avec ses deux enfants. Et là, il y a Gilles qui est aussi deux niveaux. Et après, il y a un petit pâté là où on a une entrée commune. Il y a Daniel en bas, moi au-dessus. En bas, il y a Clara et au-dessus, il y a l'autre Daniel. Voilà, on a tout ce terrain. Et là, on aura des jardins partagés. Donc tout ça, c'est en bois, isolation paille. Donc là, c'est des toits plats et là, c'est des toits à 45 degrés aussi pour avoir des capteurs d'eau chaude sanitaire. Voilà.
Solaire.
Solaire, oui. Quand il y a du soleil, mais il y en a souvent.
Il y en a apparemment.
Ah ouais.
Rebois et le bardage dessus. Sauf les bouts, sauf les planches du coup.
Et comment c'est assemblé ça là? Donc il y a à chaque fois.
C'est des murs.
C'est mur par mur.
Ah, le mur entier.
Oui. Bon, il fallait mettre dedans.
Non, bien sûr. Bon, les ouvertures
ouais,
quoi.
Ouais, aussi, mais il y a les ouvertures, tout est déjà dedans.
D'accord.
Ben, c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses.
C'est pas des panneaux de 1m25 sur 2m5.
Je peux vous demander votre nom?
Muriel.
Vous aviez déjà l'expérience de construction?
Oui, alors c'est vrai que nous, on avait déjà construit notre maison il y a une dizaine d'années d'une manière tout à fait traditionnelle et classique. Et notre souhait, c'était justement de s'orienter vers quelque chose d'autre. Parce que la maison dans laquelle on vivait était certes bien, mais au final, on n'était pas du tout à l'aise à l'intérieur. Il y avait quelque chose qui n'avait pas été construit ou qui ne nous correspondait pas. Il y avait l'harmonie, n'était pas là au final. Donc on s'est posé beaucoup de questions. On s'est dit, est-ce que c'est nous qui... Nous ne sommes pas en accord avec nos choix. Et au final, on s'est dit non, c'est juste que la maison telle qu'elle a été faite ne correspond pas en fait à l'habitat, on va dire, un habitat sain. On s'est dit, mais quand même, on aimerait quand même construire un projet qui soit plus, on va dire, déjà écologique et qui nous corresponde plus. Donc, c'est par hasard qu'on est arrivé sur le projet de l'Écohamo Ungersheim. C'est une aventure au final. La construction, c'est déjà une aventure quand on la vit à deux. Mais là, c'est une aventure qui, à mon sens, plus belle parce qu'il y a le côté groupe, donc le côté humain, et il y a le côté aussi essayer de faire une maison passive. Donc il y avait les deux aspects. On attend maintenant de le voir en vrai. On a essayé justement de faire de cette maison un peu le cocon qu'on avait imaginé. Et c'est vrai qu'à ce jour, je suis assez fière du résultat. Maintenant, voilà, j'attends de le voir sortir de terre.
Bon, ben, rendez-vous dans un an, quoi.
Ah, voilà, c'est ça, tout à fait, oui, je pense que... Oui, on devrait y arriver.
Le deuxième axe de la transition écologique est la volonté d'arriver à l'autosuffisance alimentaire. Depuis le 1er avril 2009, la restauration scolaire est 100% biologique, préparée dans une cuisine à proximité. Jean-Claude Mensch, maire d'Ungersheim.
Alors, c'est la fin d'une filière que nous avons mis en place, la filière de la graine à l'assiette, avec au début une exploitation maraîchère, donc bio, qui travaille aussi en insertion, donc 30 emplois aujourd'hui, 25 en insertion, 5 en cadrant. Donc voilà, début de la chaîne, maraîchage, mais bon, aussi des céréales panifiables, en l'occurrence des céréales qui vont être utilisées pour une malterie, ça c'est un projet, et aussi donc l'utilisation des surplus, des produits abîmés, non calibrés, dans une conserverie qui fonctionne déjà au niveau de l'essai. Voilà, donc c'est la filière intégrale de la graine à l'assiette en circuit court, en produits locaux, avec aussi une brasserie et une épicerie. Tout ça, c'est en train de se monter et géré par une coopérative d'intérêt collectif.
Et les premières conserves test de l'association, appelées La Potassine en référence aux anciennes mines de potasse, sont en vente au marché le vendredi matin devant la mairie. Nous sommes avec Martine Schermesser.
Ça, c'est les premières conserves.
Voilà, de la poutre à cime. Alors on a la poutre à touille.
Ouais.
Donc ça, c'est cette fameuse ratatouille où il manque les tomates. Donc on a utilisé les légumes de fin de serre. Et mais manque de peau, il n'y avait pas assez de tomates. Donc on n'a pas osé l'appeler ratatouille parce que c'est pas tout à fait conforme, quoi. Voilà. Donc comme c'est la potassine, on l'a appelé la potatouille. Voilà. Et ensuite on a la potassoupe. Et la dernière, c'est la confiture de carottes, puisqu'on a eu 50 kg de carottes déclassées, donc il fallait faire quelque chose avec. On s'est dit, on a déjà fait de la soupe, on va remettre ça avant Noël, on va faire une confiture, donc à la mandarine et au gingembre confit.
Ça va être bon.
Oui, c'est excellent.
4 à douzaine de riz.
D'accord. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Partons maintenant avec Frédéric Bocquenet de la commission participative Développement durable. Nous sommes sur le lieu de l'ancien carreau de mine de potasse, juste à la sortie du village, au verger du Trèfle Rouge qui attend l'un des projets importants d'Ungersheim en transition, la construction d'une ferme.
Donc elle va être adossée à ce petit talus. Et cette ferme donc est intégrée à l'ancien carreau et permettra de desservir les jardins du Trèfle Rouge. Donc pour leur permettre d'avoir une structure pour ranger leur matériel, mais aussi récupérer, nettoyer les légumes, les mettre en panier. Ce sera une zone qui permettra aux gens de venir récupérer leurs paniers.
Et c'est ici également qu'il y aura la conserverie.
Donc la conserverie sera aussi dans cette partie de ferme. Et à terme aussi, une maison des natures et des cultures qui permettront aux gens de s'initier à la nature et d'avoir un lieu de rencontre aussi au sein de la nature.
Ouais, un peu de vent, de la gadoue. On est sur le chemin des jardins du Trèfle Rouge.
Exactement.
On a vu passer un oiseau, là, Frédéric Bocquenet, c'était... qu'est-ce que c'était ?
Un faucon cresserelle.
Un mur prototype de la ferme a été monté l'année dernière au centre du village. Nous sommes avec Marc Grootvol, ethnologue, qui a conçu ce projet.
Alors vous voyez que ce mur est constitué de troncs qui ont gardé leur courbure d'origine. On a simplement enlevé l'écorce. On a empilé ces troncs les uns sur les autres de façon un peu sauvage. Les interstices ont été comblés par un mélange d'argile et de paille très étanche qu'on appelle le torchis. Tout ça est doublé à l'intérieur avec des bottes de paille. Donc on a un système de construction très très primitif en apparence, qui demande très très peu de qualifications de la part des gens qui le mettent en œuvre. Donc on peut imaginer un chantier auquel chacun participe. Et ce résultat esthétique de grosses cabanes de rondins et de torchis dans les champs, ça nous renvoie à l'imaginaire de la cabane dans la forêt, à laquelle les Alsaciens, et ceux d'Ungersheim en particulier, sont très très attachés. Il y a cette notion un petit peu de refuge, de clairière, inondée de lumière. Donc c'est une symbolique très très forte. Et ça évoque aussi l'idée de travail de défrichement. Nos ancêtres ont défriché une forêt pour créer des terres pour nourrir leurs semblables. Aujourd'hui, il s'agit de défrichement social. Dans cet endroit-là, qui fut inondé par les ressources des mines de potasse, aujourd'hui, il faut prendre en compte des populations éloignées du travail et des ressources. On est donc dans le défrichement social. Et on espère que cette ferme de rondins, bien ronde, dans sa clairière, sera un espace de lumière dans les taillis de notre société contemporaine.
Au regard des nombreux projets et réalisations menés par les habitants d'Ungersheim, ce petit village, en avance sur le reste du territoire, fera sûrement des émules.
Alors, 31,50.
Vous payez pas en radis ?
Vous connaissez pas le radis, hein ?
Pas du tout.
Voilà.
C'est que ça ?
Ça, c'est 20 radis. C'est 5 radis.
Alors, attendez.
C'est 10 radis.
Yeah, ça vient d'où, ça ?
Je dirais que ça correspond à 20 euros. C'est la monnaie locale d'Ungersheim.
Non, c'est vrai ?
Merci.
Génial ! Il y a une monnaie locale. Enfin,
ouais,
carrément.
Oui, c'est
quoi.
Ça. Ouais.
Ungersheim, un village pour l'avenir. Un grand reportage d'Agnès Rougier, réalisé par Marc Minatel.
Agnès Rougier, bonjour.
Bonjour Laurent.
Nous venons d'écouter votre grand reportage tourné donc
dites le nom de la ville, vous le direz mieux que moi.
Ungersheim.
Ungersheim, c'est en Alsace. On a l'impression à l'écouter que ce village a réussi à construire une certaine harmonie. Vos intervenants parlent avec plaisir de ce qu'ils font. Est-ce que je me trompe ?
Non, non, pas du tout, Laurent. J'ai plutôt rencontré des gens enthousiastes et engagés dans ce processus de transition. Peut-être parce que la transition écologique est indissociable du débat public, de la participation active des citoyens aux décisions qui engagent l'ensemble de la communauté. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun mécontent, j'en ai rencontré aussi, mais leurs critiques portent principalement sur la personne du maire, Jean-Claude Mensch, et ils ne proposent pas vraiment d'alternative crédible en matière d'écologie pour le village. Et dans la mesure où les dernières élections municipales, en 2014, ont réélu Jean-Claude Mensch au premier tour, on peut donc en déduire que la majorité des votants soutient sa politique de transition.
Alors vous dites dans votre reportage qu'il n'y a pas de mode d'emploi de la transition. Est-ce que cela signifie que chaque groupe doit inventer ses solutions ?
En termes d'action, oui, mais pas sur le déroulé du processus. Rob Hopkins, le professeur de permaculture avec qui les étudiants de Kinsale ont inventé ce modèle de transition, a rédigé un manuel qui décrit 12 étapes depuis la création d'un groupe de pilotage lancé par des citoyens volontaires à celle d'un plan de descente énergétique qui a vocation à montrer la ville débarrassée de l'essentiel de sa consommation de carbone. Alors au centre, il y a la participation des citoyens. Tout est bon pour créer et entretenir les liens, en fait.
Mais est-ce que cette transition n'implique pas, du coup, une forme de repli sur soi ?
Effectivement, si l'on veut créer un territoire résilient et autonome pour dépasser les crises climatiques et pétrolières, on va privilégier les circuits courts dans la production ou la distribution locale d'énergie renouvelable ou de légumes bio par exemple, afin de réduire la consommation d'énergie fossile. Alors, nécessairement, les échanges à plus grande distance se réduisent. Mais faute d'énergie propre ou bon marché dans l'avenir, hommes et choses voyageront moins, c'est inéluctable. Pour autant, les acteurs de la transition rencontrés à Ungersheim essaient au contraire de faire participer le plus grand nombre possible de personnes aux différentes actions. Et les territoires en transition sont réunis dans un réseau national, puis international, pour échanger et communiquer.
Mais alors le cours du pétrole n'a jamais été aussi bas, hein, je parle sous votre contrôle en ce moment.
C'est vrai.
Est-ce que cela ne contredit pas la prédiction d'un pétrole du coup cher dû à la décroissance des réserves ?
Alors le pétrole baisse parce que les pays producteurs ont décidé de maintenir le cours à la baisse. Ceci parce que d'une part, les prévisions indiquent que la demande mondiale va diminuer à cause de la crise financière en particulier, et d'autre part, la production du pétrole de schiste par les États-Unis est pléthorique. Alors certains pays de l'OPEP, comme l'Arabie Saoudite, ont donc décidé de garder leur production constante et des prix bas pour faire pression sur les États-Unis. Mais tous les pays producteurs de pétrole ne sont pas d'accord, c'est le cas de l'Algérie, alors ça pourrait bien changer. Quant au pétrole de schiste, son extraction est à la fois coûteuse, polluante, et si l'on veut vraiment ralentir le réchauffement du climat, il va falloir diminuer drastiquement, rapidement, les émissions de gaz à effet de serre, donc notre consommation de carbone fossile. Et là, la transition est un chemin très très intéressant.
Ce sera le mot de la fin. Grand reportage à réécouter sur
RFI.fr.
Agnès Rougier, merci beaucoup.
Merci,
bonne journée.
Laurent.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique, il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras les...
RFI, la sélection.